Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre culture, mais à une même idée. Je disais que dans la spirale dynamique, on a toutes les étapes, et puis au bout d'un moment où on a fait un tour, on revient au même endroit. Alors, la deuxième étape, c'était l'étape de l'animisme. Quand on a fait un tour complet, on retombe sur la deuxième étape. Il y a des similitudes de la deuxième étape du deuxième tour. Donc on retrouve un monde dans lequel on a des esprits de la nature. On retombe dans un monde qui nous paraît très très étrange. Mais en fait, il y a encore des gens qui vivent comme ça, actuellement. Tout à l'heure, je parlais du monde celte, de nos ancêtres, pour bien comprendre ce qui reste comme vestige chez nous, dans nos contrées en Europe. Mais en Amérique, si on va en Amazonie, on retombe exactement sur la même culture dans l'Amazonie, avec tous les chamans. Et là aussi, on a des similitudes, mais dans une culture totalement différente, où on a une approche vraiment différente. Mais je trouve intéressant de quand même passer un moment du temps pour revoir de quoi on parle et quelles sont les similitudes. Alors, le mot chaman, d'où il vient déjà? On parle des chamans en Amazonie, et en fait le mot chaman il vient de Sibérie. C'est pas tout à fait la même région du monde, mais c'est toujours un peu ce même type, c'est une connotation de guérisseur, de religieux, d'homme à tout faire, qui rentre en fait en contact avec le monde des esprits, c'est plus précisément. Et en Sibérie, ben, il y avait les chamans, qui font des transes pour faire des états modifiés de conscience. Alors en Amazonie et en Sibérie, ils n'utilisent pas les mêmes techniques, mais effectivement, c'est le lien. Ils utilisent des états modifiés de conscience. Alors en Sibérie, c'est souvent des grands tambours, puis ils tapent dessus, bam 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 bam, puis ils font des danses. Puis avec ça, ben, au bout d'un moment, c'est comme dans une discothèque, au bout d'un moment, on commence à avoir un état modifié de conscience, d'être dans la musique comme ça, même sans prendre de psychotropes. Alors que en Amazonie, ben, il y a aussi des plantes psychotropes, c'est aussi lié. Et notamment l'ayahuasca, qui est une liane, enfin tout un mélange de lianes, qui est assez compliqué à faire, qui est une chose assez étrange que des gens qui se baladent à moitié à poil dans une forêt aient pu découvrir que faire une chimie si complexe là au milieu pour faire un produit qui agit autant bien sur le corps humain en se complétant, en inhibant des capteurs qui ont besoin juste à ce moment-là pour pouvoir faire passer une autre substance qui va faire autre chose à ce moment-là. Là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Et là, il y a l'anthropologue Jeremy Narby qui a étudié toutes ces choses. Donc, il se trouve que malgré qu'il a des origines plutôt anglophones, et il habite dans un petit village perdu au fin fond du Jura en Suisse. Et ben, on retrouve un peu partout des similitudes en Suisse, de tous ces gens qui font des recherches dans le même genre. Et il a fait une thèse de doctorat où il voulait faire de l'anthropologie chez les Indiens Shipibo en Amazonie péruvienne, et il a montré que toute cette culture, ben, elle était très attachée à son histoire et tout, et qu'il y avait des raisons, et il a voulu montrer un peu plus, et là il se disait, ben, c'est quand il y avait la grande période de déforestation dans les années 80, il fallait absolument sauver la forêt amazonienne, ce qui est toujours pas résolu hein, d'ailleurs, qui recommence. Et il voulait montrer qu'en fait, ces gens-là, ils avaient aussi une culture et qu'il fallait qu'eux, ils puissent eux-mêmes bah, exploiter la forêt comme ils voulaient. Et puis, bah, c'est là que c'est allé au-delà de ses espérances. Il s'en est retrouvé à ce qu'on lui explique souvent. Oui, alors le chaman, c'est la télévision de la forêt. Il a accès à plein de trucs. Puis, il comprenait pas très bien. Et puis, on lui disait toujours, ben, comment vous savez toutes ces connaissances pharmaceutiques absolument géniales? Mais c'est les plantes qui nous ont dit. Les plantes qui vous parlent, C'est bizarre tout ce qu'il nous raconte. Et là, il a creusé la chose jusqu'au moment où on l'a invité chez un chaman. Il a fait une séance d'ayahuasca. Et il a aussi eu, lui, plein de visions, plein de choses. Et là, il a compris qu'il vivait dans un monde où là, ça lui ouvrait des portes supplémentaires, un état modifié de conscience qui permet de discuter avec des êtres dont on ne sait pas vraiment où ils sont, ce qu'ils sont, est-ce que c'est généré par soi-même, est-ce que c'est vraiment extérieur à moi. Il avait quand même des perceptions tout à fait étranges, comme il arrive, disait, il y avait des petites grenouilles qu'on entend dans la forêt, mais là, il les entendait à 100 mètres comme si elles étaient juste à côté. Donc, une notion de conscience tout à fait différente. Et ce qu'il a trouvé au cœur de ça, c'est le serpent. Le serpent apparaît partout, et surtout le serpent double. Et finalement, il est rentré chez lui après son doctorat, il a oublié ça pendant quelques années, et il y est revenu, et il a commencé à faire vraiment un travail très intellectuel de recherche scientifique dans toutes les revues, dans tout ce qui a été fait. Et il a trouvé que dans toutes les croyances du monde entier, on trouve des notions de serpent double. Alors effectivement, c'est assez impressionnant. J'ai aussi recherché dans mes bouquins de religion. Le serpent double, il apparaît partout. En Inde, on a souvent le serpent double qui est à l'origine du monde. Dans l'Amazonie, bah c'est le serpent double qui est là, et qui se love et qui crée le monde. Les chamans en Sibérie, ils ont des dessins de serpents qui sont sur leurs habits, sur leurs jambes. Donc, il y a toujours, toujours une relation avec des serpents. Le Bouddha, il a été protégé par un serpent pendant qu'il a eu l'éveil. Et là, il s'est dit qu'il y avait quand même trop de similitudes. Et il a développé toute une théorie dans un livre qui s'appelle Le Serpent Cosmique, qui a été publié en 1998, et dans laquelle cette théorie explique que les chamans, en fait, voient l'ADN comme un serpent double. La double spirale du serpent et de deux serpents ensemble est exactement la même forme que la spirale double de l'ADN. Alors c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 50, l'ADN, et là, ben, ça fait depuis beaucoup plus longtemps qu'en fait les chamans parlent de double spirale, de double hélice ou d'échelle divine qui permet en fait de voir le cœur de la nature, de la composition de la nature, et puis de pouvoir ben, connaître, faire ces espèces de potions qui font, et de devoir avoir les bonnes plantes aux bons endroits. Et ils ont une connaissance absolument incroyable. Et d'ailleurs, ben, depuis une vingtaine d'années, les industries pharmaceutiques du monde entier vont s'arracher les connaissances des chamans et de toutes ces tribus pour essayer d'extraire les principes actifs de certaines plantes, pour pouvoir faire des médicaments. Mais là, c'est une connaissance qui apparaît seulement aux chamans dans des états de conscience modifiés. Et c'est ici que Jeremy Narby a encore poussé un peu plus loin. Il a sorti un deuxième livre en 2005 qui s'appelle Intelligence dans la nature. C'est une espèce de roman policier. Finalement, il va enquêter. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la conscience? Et il fait un tour du monde en partant de gens comme vous et moi qui ont un cerveau très complexe avec des milliards de connexions, qui ont une conscience. Et puis, ben, petit à petit, savoir, ben, les animaux ont aussi une conscience, des animaux toujours plus petits, toujours plus bêtes. Est-ce que l'araignée a une conscience? Est-ce qu'une bactérie a une conscience? Est-ce que les acides aminés ont une conscience? Là, on est en dessous. Les acides aminés composent l'ADN. Donc, on est en dessous de n'importe quoi. Et on trouve des bactéries qui arrivent à résoudre des labyrinthes, qui ont des stratégies comme ça. La notion d'intelligence avec ça, elle est de plus en plus floue. Et ben, il se trouve que on revient toujours autour de moi, hein, à l'université de Neuchâtel, paf, j'y vais tous les jours à Neuchâtel ou presque. C'est dans la région, tac, le livre finit à l'université de Neuchâtel avec un prof d'Uni que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, qui nous révèle que les protéines sont intelligentes. La notion d'intelligence et de conscience, c'est quelque chose qui n'est finalement pas défini du tout, dont on n'a aucune idée scientifique de savoir ce que c'est vraiment. Donc, ce livre finalement finit par poser plus de questions que ce qu'il en résout. Et c'est là que c'est Absolument incroyable. Alors pour en savoir un peu plus sur les chamans, je te recommande directement d'aller voir mon article qui précise tout ça sur mon site web martouf.ch, dont il y a aussi un reportage sur l'ayahuasca, on voit tous les rituels qui sont faits, que c'est considéré comme une drogue dans la plupart des pays du monde, mais que finalement c'est le même principe, c'est use de tout, n'abuse de rien, c'est pas forcément une drogue, tout dépend comment elle est prise, il y a tout un rituel. Alors, dans la manière normale pour un chaman de prendre ceci, c'est qu'il fait un jeûne, il mange plus de sucre, de sel pendant 10 jours, il va dans la forêt, dans son hamac tout seul, il se fait une préparation, il vit dans la forêt et gentiment, il est prêt à accepter tout ce qui va se passer et à apprendre. Et c'est pas n'importe qui, c'est des personnes sélectionnées qui prennent l'ayahuasca et qui ont ces visions. Il a un objectif particulier qui va là-dedans. Alors que maintenant, il y a du tourisme qui se fait. Vous pouvez aller en Amazonie sans aucune préparation. Il y a un chaman qui essaie de faire son petit l'aïeul guide touristique pour dire ça, c'est ça. Puis ils font une pseudo-cérémonie. Et en 1 heure et demie, on vous balance directement l'ayahuasca. Vous en prenez. Vous en avez pour votre transe qui dure 5-6 heures, alors que ça peut durer beaucoup plus longtemps aussi. Et du coup, ça perd un peu de son emploi, c'est vu d'une mauvaise manière, alors qu'il y a vraiment des rituels qui vont là autour. Et il y a des rituels qui sont très sérieux. Alors, je recommande de vraiment comprendre comment fonctionne, de rentrer dans cette culture et de voir ce que ça prend. Et là, on retrouve des similitudes avec de nombreuses civilisations. Il y a des rituels de renaissance aussi, hein, de jouer avec la vie et la mort, de faire lâcher son ego en étant enterré vivant. Et c'est des choses qu'on retrouve déjà dans l'Antiquité. Des questions comme Dionysos et Diogonos, né deux fois, ça signifie. La résurrection du Christ, c'est des choses qui sont reprises dans le christianisme. C'est toujours faire lâcher son ego pour pouvoir avoir un état de conscience modifié et voir le monde d'une manière tout à fait différente. Il y a aussi des enregistrements audio que je recommande avec par exemple Philippe Leneff, qui est belge, me semble-t-il, qui explique sa vision du monde de l'ingénieur cartésien au chaman, comment il a changé de vision du monde. Et autant Stéphane Cardinaux, Philippe Leneff, ils ont des visions du monde justement scientifiques qui tout d'un coup se transforment et qui nous expliquent des choses où on a une vision du monde où tout d'un coup le monde n'est plus pareil. Dans la perception de ce qu'on en a, il y a une seconde couche qui se place devant et qui entre tout à fait en fait. Dans ce qui est en train d'arriver dans notre monde technologique, qui est la notion de réalité augmentée. Alors, ces gens-là, ils vivent déjà dans cette réalité, mais avec une technologie tout à fait différente qui existe depuis des millénaires. Et quand on a les Google Glasses, le but du jeu, on voit débarquer de plus en plus, qui sont encore en test chez Google, et qui vont certainement déferler ces prochaines années. Avec les iPhones, on arrive à faire pareil. C'est la notion de réalité augmentée. Donc, on superpose une réalité à la réalité. Donc, un peu comme les avions de chasse qui utilisent depuis de nombreuses années aussi l'interface HUD, où on superpose les données de vol à la réalité. Ou si je me balade avec les Google Glasses, il y a la carte de l'itinéraire que je dois prendre, qui se superpose, il m'indique la direction que je dois prendre, couplée au GPS. Si je regarde les montagnes, on m'indique le nom des montagnes directement. Je peux avoir les informations dans un magasin, si sur les aliments que j'ai, pouc, directement, je regarde l'emballage et hop, toutes les informations se déroulent et directement scannées pour me dire si c'est compatible avec mon corps, si je peux l'assimiler ou pas. Et c'est des choses que finalement Stéphane Cardinaux nous explique tout ce qu'il fait. Il nous dit qu'il voit les réseaux telluriques, qu'il a développé une telle sensibilité qu'au bout d'un moment, il a des sens qui se sont améliorés et qu'il arrive à voir en couleur par-dessus les réseaux telluriques, les cheminées et tout. Puis on lui dit, mais bon, il y a des appareils scientifiques pour voir tout ça. Puis il dit, oui, bah oui, mais ils sont moins bons. Alors moi, je préfère, quand vous voyez les réseaux telluriques, il n'y a même pas besoin de les toucher, il n'y a même pas besoin d'aller avec les mains, il n'y a même pas besoin d'aller avec un appareil quelconque. C'est tellement plus compliqué que il suffit de les voir. Et là, on comprend qu'ils voient en fait toutes ces interfaces dans la nature. On peut discuter avec des êtres élémentaux, c'est une sorte d'interface. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a dans la région? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais qu'une météo change la météo ici, plouc. Et c'est une intégration totale dans la nature que tous ces chamans ne font depuis des millénaires, que les clairvoyants font. Et là, on est en train de nous annoncer qu'avec les Google Glasses, ce sera parfait, on aura ces lunettes, puis que notre monde, c'est le mouvement transhumaniste qui est apporté par Google, porté par Google surtout, alors qu'en fait, c'est des choses qui existent depuis des années et qui sont souvent mises dans le côté spirituel, qui en deviennent des fois des croyances, mais qui en fait ont des réalités très pratiques derrière. Alors c'est pour ça que les Indiens Shipibo, ils rigolent beaucoup. Ben, ils disaient un temps qu'ils avaient la télévision de la forêt, mais en même temps, c'est aussi l'Internet de la forêt qu'ils ont. Donc là, on peut concilier vraiment ma vision du monde écologiste, on n'a pas besoin d'ordinateur, avec la vision, oui, l'Internet c'est bien, j'en aurais besoin. Tout ça, ça va. Alors, après, on dit que c'est des peuples primitifs dans la forêt amazonienne, qu'ils ne savent rien faire, qu'ils n'ont même pas inventé l'écriture. Mais moi, je me pose la question, pourquoi avoir inventé l'écriture quand on a l'Internet dans sa propre langue qui nous parle et toutes les infos dont on a besoin? Est-ce que j'irais encore graver des tablettes d'argile? Pourquoi avoir inventé ça quand on a à disposition une telle technologie? Les illettrés, c'est qui dans l'histoire finalement? Et tout ça, c'est basé sur le principe de conscience, d'état modifié de conscience. On ne sait pas trop bien ce que c'est, Jeremy Narmi nous le montre bien. Et de plus en plus, cette notion est aussi creusée par des scientifiques. Donc, les chamans se forcent à avoir des états de modifiés de conscience, avec les tambours, avec les bols tibétains, avec l'ayahuasca, avec des substances psychotropes, mais aussi au Mexique, avec la mescaline qu'on trouve dans les cactus, avec les psilos, on peut aussi faire ce genre d'expérience. Les hippies ont aussi testé ce genre de même chose. Avec encore un Suisse, hein, Monsieur Hoffman, qui a inventé le LSD, bien malgré lui, basé sur l'ergot de seigle. Le LSD, finalement, provoque un état de conscience modifié, et les premiers hippies, dans les années 60, cherchaient à voir Dieu en face, c'est vraiment ça. Et puis, ben, finalement, le LSD, comme les rites dans l'Amazonie, a été transformé, on n'a pas fait le rituel qui avait été mis en place au début pour pouvoir consommer ce genre de substance, et ça a été pris comme une drogue récréative, et c'est use de tout, n'abuse de rien, et là on est tombé dans l'abus, ça a été interdit, et finalement on a loupé, on est passé à côté de quelque chose qui était aussi intéressant. Et toute cette recherche d'état de conscience modifié, finalement, il y a quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience, déjà? Faut bien le comprendre ce que c'est. Un état modifié de conscience, on en fait tous les jours. C'est quand on a des automatismes qu'on ne s'en rend même plus compte. Il y a des gens qui partent de chez eux, qui conduisent leur voiture et qui, 10 km plus loin, se disent, mais ouf, attends, je suis où? Mais ils ont réussi à conduire leur voiture jusque-là et pas se poser de questions, ils étaient perdus dans leurs pensées. C'est une sorte d'état modifié de conscience. Quand on dort la nuit, quand on rêve, la frontière entre l'état éveillé et l'état en sommeil, c'est un état de conscience, c'est un état modifié de conscience. Tout d'un coup, il y a une modification qui fait que la conscience n'est plus la même. On a aussi, je crois que c'est l'ocytocine, qui est une substance générée quand on a de la douleur dans le corps et qui permet, bah, par exemple, dans les accouchements, on dit que justement la médication de tous les accouchements qu'on fait, les accouchements sans douleur, finalement, il dérègle tout ça parce qu'on n'atteint plus l'état de conscience modifié qu'une mère devrait avoir au moment de l'accouchement, où elle fait elle-même en fait les substances qui vont lui permettre de modifier son état de conscience et de savoir exactement ce qu'il faut faire sans jamais l'avoir appris. Et finalement, on complique, on fait de plus en plus de césariennes alors que on est en train de fausser totalement la manière de prendre parce qu'on essaie d'éviter cet état de conscience modifié en évitant la douleur. Et c'est un faux chemin. Donc ces états de conscience modifiés sont de plus en plus étudiés par la science. On a aussi le pendant qui est le plus proche, l'expérience de mort imminente. On parle en anglais de NDE, Near Death Experience. À Genève, il y a l'association Noesis qui s'intéresse aux états de conscience modifiés, aux NDE. Et ils étudient ce genre de phénomène de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils ont vécu des expériences quand ils ont eu un accident. Qu'ils ont fait des sorties de corps, qu'ils ont eu l'impression de voir le fameux tunnel qu'on représente dans toutes les religions au moment de la mort. Il y a un superbe reportage qui a été fait sur la télévision suisse romande en début 2013, dans lequel il est aussi sur mon site web en référence, il suffit d'aller le voir, dans lequel on voit des gens qui racontent leur décorporation, dans laquelle il y a une expérience, dans laquelle il y a des gens qui expérimentent des états modifiés de conscience pour aller se décorporer et aller explorer là une expérience avec une boulangerie, quelqu'un qui arrive à distance à décrire tout ce qui se passe dans une boulangerie alors qu'il est loin de ça. Et c'est une expérience en double aveugle, donc il ne sait pas qu'en fait il y a quelqu'un qui, c'était pas une proposition au hasard qu'on lui fait, mais qu'il y a quelqu'un qui est au même moment dans cette boulangerie et qui observe, qui prend des notes sur l'endroit comme il est, et qui et finalement confirme que cette personne a bien vu des détails comme les nouvelles boucles d'oreilles de la vendeuse, un panier qui était posé de manière bizarre dans la boulangerie et qui n'était pas anodin, toutes des choses qu'il n'aurait pas été possible de voir à distance, et par un autre moyen que cette personne, on ne peut que croire qu'elle s'est décorporée, sa conscience a été plus large que son corps, et a pu voir quelque chose plus loin. Donc là, on a encore tout un pan de la science qui s'ouvre, des gens qui essaient de savoir justement si ces questions, quand on fait une expérience de mort imminente, on voit le tunnel, on a l'impression de se décorporer, est-ce que c'est généré par le cerveau? Comme les gens qui se posent la question, est-ce que le chaman, quand il est en état de conscience modifié, puis qu'il parle aux esprits, est-ce qu'il leur parle ailleurs ou est-ce que c'est généré par le cerveau? Et c'est là que finalement, il y a deux écoles. Il y a les scientifiques qui se refusent à croire qu'il y a quelque chose d'autre que le cerveau, que tout est généré par le cerveau. Et il y a les gens qui se disent, la conscience, c'est vraiment terriblement, vraiment mal connu. On ne sait pas ce que c'est. Et finalement, il se pourrait bien que notre conscience, elle soit beaucoup plus vaste que le cerveau ne soit finalement qu'un récepteur de quelque chose. Alors, là on commence à aller loin aussi. On peut se dire, la conscience n'est pas dans le cerveau, elle est en dehors du cerveau. Et ça explique ce que l'enquête de Jeremy Darby, quand on a des protéines qui sont intelligentes, on se dit, finalement, il y a tellement peu de choses dans une protéine que c'est difficile à voir, c'est pas comme dans un cerveau avec des milliards de connexions, qu'on pourrait stocker de l'information là-dedans, pour avoir une machine qui la génère. C'est beaucoup trop limité. Mais si on se dit que la conscience, elle est en dehors de ça, elle est en dehors du cerveau, que ce qui calcule, c'est pas dans la matière physique qu'on voit, c'est en dehors, c'est quelque chose d'autre. Là, tout d'un coup, ça prend un sens différent. C'est cohérent avec tout ça. Tout est cohérent. Et finalement, on se dit, oui, la conscience, elle est ailleurs. Donc finalement, on arrive à déplacer sa conscience, de sortir de son corps et aller jusque dans la boulangerie pour observer ailleurs. Stéphane Cardino qui explique qu'il va voir son chat perdu dans la tempête pour savoir où il se trouve. C'est un déplacement de conscience. C'est quelque chose d'autre. Et là, on a une définition que j'aime bien, qui est donné par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, un anesthésiste français qui s'est spécialisé dans les expériences de mort provisoire, comme il dit, parce qu'elle n'est pas imminente, et il trouve que c'est drôle, parce que c'est une mort provisoire, on est mort, le corps physique est mort réellement, et en tant qu'anesthésiste, il voit ça régulièrement, des gens qui meurent, qu'on réanime, parce que maintenant, scientifiquement, dans la médecine, on est capable de réanimer des gens, Et tout d'un coup, ils reviennent à la vie. Donc, on les ressuscite d'une certaine manière, on les réanime. Donc, leur corps n'était plus capable d'enregistrer aucune information. Et pourtant, ces gens-là se souviennent parfaitement de ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Ils étaient décorporés, ils étaient là, et ils se souviennent de ce que les médecins ont fait autour, de ce qu'ils ont dit, des blagues, alors qu'ils sont totalement anesthésiés, endormis, que normalement leur corps n'était pas capable de capter aucune information parce qu'ils sont morts. L'électroencéphalogramme plat, le cœur plat. Et là, lui dit, j'ai de plus en plus de patients qui me disent qu'ils étaient là. Ils ont tout vu. Et il fait des expériences où il place des cibles au plafond. Il place des cibles dans d'autres pièces. Puis après, il demande aux gens, est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez vu le mot qui est marqué là? Est-ce que vous avez vu le truc là? Et il trouve des gens qui répondent positivement à tout ça. Donc, il se dit vraiment que la notion de conscience est différente. Et alors, pour revenir à sa définition, il dit que certains scientifiques cherchent à démontrer que tout se passe dans le cerveau. Il dit, c'est un peu comme la personne qui démonte sa télévision pour voir où sont faits les programmes de télévision. Le cerveau est une interface pour matérialiser notre conscience, mais c'est pas là que se fait la conscience. Donc c'est vrai que le gars qui démonte complètement sa télévision, qui trouve tous les transistors dedans, puis qui dit, mais il est où le présentateur télévision? Il est où? Eh ben non, c'est un récepteur. Donc on a bien besoin d'un appareil qui fait ça, mais ce n'est pas l'endroit où sont fabriqués les programmes de télévision, c'est pas l'endroit, c'est pas là où sont filmées les choses, c'est pas là où on les fabrique. Donc du coup notre cerveau, il prend une dimension tout à fait différente. Le cerveau, c'est un récepteur de conscience, c'est un endroit où on peut la mettre, mais c'est pas forcément là que la conscience se trouve, c'est pas forcément ça qui génère totalement. Alors on verra plus tard avec Christophe Alain qui aussi explique un peu notre fonctionnement. Y a des notions d'ego là-dedans. Il y en a quand même une intelligence qui se trouve dans le cerveau, mais il n'y a pas que ça. C'est un problème un peu plus complexe. On y reviendra plus tard. Mais alors la conclusion, c'est qu'on est un tout, que l'humain, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose. Il y a une dimension vraiment spirituelle parce que là on entre dans des choses où on doit faire des expériences, on a des points de vue qui sont ailleurs. Et là j'avais écouté une expérience très intéressante qui était décrite dans l'émission du Club Bizarre qui était sur Couleur 3 sur la télé, à la radio romande. Cette émission, on n'écoute plus, mais les podcasts sont toujours disponibles en lien sur mon site web. Et il y a un éducateur qui expliquait qu'il travaille dans une maison pour handicapés assez lourdement. Des gens qui parlent pas, ou qui parlent très peu, qui connaissent, qui sont autistes, ou qui connaissent que quelques centaines de mots, et avec lesquels on a beaucoup de difficultés à parler, qui sont handicapés lourdement. Et dans cette institution, en Suisse, il a, en faisant des discussions avec des tables de mots, avec une tabelle de 260 mots, au fil des discussions, il a pris conscience que son résident lui expliquait que malgré son handicap, il est au courant de plein de choses qu'il ne devrait pas pouvoir être au courant tellement il est handicapé et tellement il ne peut pas se bouger tout seul. Mais il lui explique que il va se balader librement dans l'institution et au-delà. Il se balade partout. Pour lui, c'est naturel. Depuis sa naissance, il se décorpore, il sort de son corps, il va ailleurs, il se balade. Et donc, les handicapés ne sont pas forcément si handicapés que ce qu'on croit. Dès qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Directement. Et ce thérapeute qui a l'esprit très ouvert s'est mis à remarquer que de temps en temps, il avait des conversations qui allaient au-delà de ces 260 mots, mais des conversations télépathiques avec cette personne handicapée. Alors, il a écrit tout un livre qui s'appelle Les ouvriers du ciel, où il décrit ses relations qu'il a eues avec ses patients Soriel, Léa et Romuel, qui sont tous des patients lourdement handicapés. Certains peuvent parler, peuvent à moitié parler, d'autres ne parlent pas. Mais ils communiquent. Et c'est avec des gens qui vivent et qui ont une conscience qui va bien au-delà de ce qu'on connaît. Et qui, finalement, qui sont les plus handicapés? Ceux qui ont cette conscience ou ceux qui ne l'ont pas? Et un petit reportage très intéressant sur la TV de Lilou, où on parle beaucoup de ce genre de sujet un peu bizarre, et qui a été une petite vidéo où Stéphane Bruchet nous explique justement son expérience avec ses handicapés. Et l'interview a été faite sur les bancs de quai à Montreux, juste à côté de chez moi. Donc on tourne toujours là autour. Je vois que je suis entouré. Et là, il y a des signes. Je ne sais pas pourquoi, ça tourne toujours autour de gens que je connais, de gens qui se font une expérience d'endroits très proches. Et là, on touche vraiment ces notions de clairvoyance, ces notions de conscience qui sont tout à fait ailleurs. Et pour vraiment comprendre, alors l'étape suivante, ça va être de te raconter toute l'histoire de Christophe Alain, le clairvoyant, de savoir tout ce qui lui arrive. Et vraiment le monde tout à fait étrange, j'ai une vision du monde très intéressante qui arrive à nous décrire le fonctionnement humain dans son intégralité, et des notions aussi de double du futur, de double du passé, qu'on peut interroger, et on peut choisir le meilleur futur qu'on a pour nous. Des notions de clairvoyant, de pouvoir faire des thérapies sur nous-mêmes, de pouvoir prévoir son propre futur, et des notions terriblement insensantes. Quelle est la nature du monde, la nature de l'univers? Ce sera pour la suite. À bientôt.